Chapitre 7, la résistance individuelle.
Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, entrer en résistance.
Résistance, tu veux me faire un cours d'histoire?
Non, c'est l'attitude qu'adopte de plus en plus de personnes conscientes autour de nous. D'accord, c'est souvent discret, et les grands médias n'en parlent presque jamais. Mais il y a une foule d'actions menées aujourd'hui par celles et ceux qui refusent d'aller plus loin sur la pente, de cautionner un système aussi injuste, et qui, chacun à leur niveau, expérimentent d'autres modes de vie que le « toujours plus ».
Par exemple?
Eh bien, tout d'abord, adopter un mode de vie simple, donner des limites à ses envies, se poser la question du superflu par rapport aux besoins nécessaires. Cela veut dire accepter la frustration de ne pas acquérir tout ce que la publicité nous incite à acheter. Refuser de se soumettre aux diktats des modes. Faire des choix à partir de ce qui nous apparaît vraiment prioritaire pour bien vivre.
Qu'est-ce que bien vivre?
Il faut sortir de notre vision étroite dans le temps et dans l'espace pour découvrir des civilisations qui cultivent la paix, l'harmonie intérieure, la fraternité, le respect de la nature, la joie des rencontres, les fêtes collectives, les chants, les danses, etc. Ici, notre frénésie d'achat du dernier smartphone leur apparaît folie et la pollution de la planète sacrilège.
Tu veux qu'on s'éclaire à la bougie?
Et voilà, la répartie typique des inconditionnels du progrès technique. Plutôt que de remettre en cause leur mode de vie, ils veulent nous enfermer dans une alternative binaire, réduisant notre liberté au tout ou rien, soit poursuivre sur notre lancée, soit régresser au Moyen-Âge. Il faut résister, ne pas se laisser enfermer dans ce dilemme, ce piège grossier.
Comment nommer alors le bien vivre?
Quantité d'expressions peuvent le traduire. Sobriété heureuse, abondance frugale, satiété joyeuse, modération, sens de la mesure, renoncement, contentement, simplicité du mode de vie, etc. L'enjeu central de l'humanité réside dans la capacité humaine de se réguler, de se donner des limites, de ne pas céder de manière infantile à ses pulsions. Depuis des siècles, je t'avais dit, toutes les sagesses du monde prêchent la tempérance. Ce n'est pas un hasard.
On n'est pas tous des philosophes.
Mais on peut le devenir, si on accepte qu'il s'agit seulement de penser sa vie et vivre sa pensée. Pas besoin d'être docteur en philosophie à l'université pour réfléchir, pas plus qu'être diplômé en psychologie pour comprendre. Chacun de nous peut développer sa capacité de discernement pour ne pas se laisser entraîner dans le tourbillon de nos impulsions, conditionnées chaque jour par les médias qui exaltent nos désirs égoïstes.
Où, les médias?
La plupart appartiennent au même groupe financier. Donc on comprend que sur le fond, leurs lignes éditoriales se ressemblent. Seul varie le dosage entre frais divers, vie des stars, résultats sportifs, exhortation au retour à la croissance, potins politiques, météo, jeux, reproduction des mêmes discours et divertissements. Il y a très peu de vrais reportages, d'investigations fouillées, de recherches contradictoires que seuls peuvent mener quelques journalistes indépendants, mais leur profession est sinistrée.
Il y a même des journaux gratuits?
C'est le pire. En gros, trois quarts de publicité et un quart d'infos d'agences collectées par des robots. C'est dramatique. Il faut boycotter ces placebos et rechercher des médias alternatifs qui ne doivent leur liberté qu'au financement de lecteurs fidèles. L'enjeu du discernement intellectuel devient crucial pour échapper au troupeau des idées reçues, des clichés. Certains auteurs parlent d'écologie mentale, de la nécessité de décoloniser notre imaginaire pour échapper au conditionnement.
Et la radio, la télé, alors?
Même question de l'origine du financement. Il y a un adage qui dit « qui paye, commande ». Ça explique la docilité de ce qu'on entend ou lit à quelques exceptions près. Il suffit de voir comment la quasi-totalité des radios libres a été phagocytée par le système. Ils sont vite rentrés dans le rang. Plutôt que de se vautrer devant la télévision, il faudrait aller aujourd'hui sur Internet pour découvrir des parcelles d'informations libres, sachant que personne n'est en mesure de traduire objectivement la réalité. Nous l'interprétons toujours, on en a parlé dans le préambule. Nous sommes très souvent orientés dans l'acceptation d'une pensée unique.
Comment faire alors ?
Déjà, soutenir financièrement les vrais journalistes. Demande à quoi sont abonnés les parents de tes amis et tu sauras d'emblée quel modèle de société ils encouragent. Que lisent-ils ? La vie des stars dans une revue bien connue financée par un marchand d'armes ? Le journal local centré sur les faits divers, de préférence crapuleux ? Les résultats sportifs ? Si déjà tous ceux qui critiquent les dérives de notre société achetaient d'autres informations que la pensée dominante, nos cerveaux pourraient s'oxygéner.
Il n'y a pas que la lecture.
Effectivement, certains films documentaires, certaines chansons à texte échappent au moule médiatique. Il convient de les repérer et de les promouvoir. Participer ou suivre ce qui se passe dans les forums sociaux mondiaux, financer les médias alternatifs.
Nos choix d'achat sont donc importants ?
Oui. La prise de conscience de nos pouvoirs de consommateurs est récente, est encore peu généralisée. Nous sommes souvent en pleine contradiction. Exemple, on se plaint de la disparition des petits commerçants de son quartier et on va acheter dans les grandes surfaces ou par Internet. On critique les embouteillages, la pollution, mais on prend la voiture au lieu d'aller marcher un quart d'heure. On déplore la disparition des maraîchers, mais on va acheter des légumes hors saison d'autres pays.
Maman n'achète plus de fraises à Noël.
Parce qu'elle fait partie des familles qui ont compris l'enjeu de restaurer une agriculture locale, paysanne et non pas industrielle. Une agriculture respectueuse de la nature et qui n'exige que peu de transport. Rien que dans le domaine alimentaire, il y a encore beaucoup à faire quand on sait les incidences de la consommation de viande rouge sur les grands équilibres. Comme nous l'avons vu, pour l'empreinte écologique en matière de transport et de pollution, il nous faut changer notre modèle alimentaire si on veut nourrir 9 milliards d'individus.
Les déchetteries débordent.
C'est aussi un phénomène récent, le gaspillage, la surprotection par les emballages. Pourquoi ne pas aller acheter son lait avec sa propre bouteille, ses légumes avec son panier ? Le bon sens devrait nous permettre de nous passer de tous ces contenants plastiques, c'est encore du pétrole, qui ne se recycle pas. On voit heureusement un début de prise de conscience qu'il faut encourager pour redévelopper la filière des réparations, du recyclage et des achats en vrac, des emballages consignés, d'autant que ça donne du travail, des emplois.
Réduire sa consommation électrique.
Voilà encore un bon exemple de ce que chacun peut faire. Quand je pense qu'on voit encore des publicités pour acheter des radiateurs électriques pour se chauffer, alors qu'il s'agit du plus mauvais rendement calorifique existant. Avant de s'interroger sur l'énergie de demain, chacun doit déjà s'ingénier à moins consommer celle d'aujourd'hui. Il y a beaucoup à faire, tellement nous sommes habitués à gaspiller une énergie peu chère.
Il paraît que ça va augmenter.
Ça va augmenter spectaculairement, car nous ne payons pas aujourd'hui l'énergie à son vrai prix. Par exemple, le tarif d'électricité n'intègre pas le coût du démantèlement des installations nucléaires périmées. Ça n'intègre pas non plus la gestion des déchets nucléaires dont on ne sait que faire. Le gaz et le pétrole exigent de plus en plus d'énergie pour extraire les dernières réserves. Et leurs tarifs ne prennent pas en compte les dommages externes, tout ce que ça produit sur le transport, sur la pollution, etc.
Les Français économisent.
L'INSEE a calculé que le patrimoine net accumulé par les ménages français pesait fin 2011 un peu plus de 10 300 milliards d'euros, soit 5 fois le montant de la dette publique. À quoi sert cette masse colossale d'argent ? Peu de familles autour de nous exigent de savoir ce que leur banque ou leur assurance font des économies qu'ils ont placées. D'où proviennent les rendements financiers ? De l'évasion fiscale, de l'exploitation du travail des enfants, des atteintes à l'environnement, parce que rares sont les placements qui respectent des règles éthiques.
Donc il faut s'engager économiquement, chacun à son niveau, pouvant faire quelque chose ?
Tout à fait. Les petits ruisseaux deviennent des fleuves. Chacun peut contribuer à assainir les circuits financiers en devenant plus exigeant sur l'utilisation de son argent, tant au niveau de ses économies, même minime, qu'à celui de chaque acte d'achat. Est-ce que ce que j'achète est fabriqué dans de bonnes conditions? Est-ce que ça encourage l'emploi local? Et surtout, en ai-je vraiment besoin? Nous devons encourager le commerce équitable, les investissements qui créent des emplois respectant les conditions de travail et ne dégradant pas l'environnement.
Ça prend du temps pour se renseigner, poser des questions, vérifier les réponses.
Tout à fait. Nous sommes de fait chaque jour affrontés à des choix possibles. Consommer, vivre comme un mouton, ou réfléchir et rechercher la cohérence d'un mode de vie plus sobre. Dans ce dernier cas, cela signifie que nous résistons au lieu de nous voiler la face. Nous prenons conscience de notre conditionnement et pouvons alors formuler des alternatives possibles.
Tout seul dans son coin, ce n'est pas évident.
Voilà pourquoi se développent aujourd'hui de nombreux lieux d'information et d'action, comme le mouvement coopératif, l'économie sociale et solidaire, les placements éthiques, différentes associations et mouvements.
On peut donc s'engager en choisissant ses lectures et sa consommation?
Oui, le discernement intellectuel et économique est déjà un grand pas de fait dans la désintoxication. Mais il ne faut pas oublier l'engagement relationnel. Dans une société prônant le désir égoïste, le chacun pour soi, chacun peut au contraire développer des liens sociaux par une attitude bienveillante, d'ouverture, de solidarité. Comment accueillons-nous l'étranger, la personne différente? Au lieu de rester enfermés dans notre microcosme avec nos petites habitudes, nous laissons-nous surprendre par l'inattendu, par la rencontre?
Nous ne sommes plus très accueillants aujourd'hui.
Dans un contexte de crise, la figure de l'étranger sert de bouc émissaire à nos peurs. Entendre que 3 millions de chômeurs, c'est 3 millions d'immigrés en trop, fait frémir tant l'amalgame est stupide. Il n'y a pas de substitution magique. C'est l'expression du racisme ambiant, du rejet de l'autre, soutenu par une frange politique d'extrême droite et, ou bien, d'intégristes catholiques.
Tu m'avais dit que c'était une religion d'amour.
C'est en effet le message central de la religion catholique. Aime et fais ce que tu veux. La radicalité de l'Évangile, texte fondateur, engage chaque croyant à une vie simple, fraternelle, centrée sur l'aide apportée aux pauvres, aux malades, aux démunis. Cette option préférentielle pour les plus faibles est révolutionnaire. Elle inscrit la reconnaissance de l'altérité au cœur du projet chrétien, à l'extrême opposé des croisades, de l'inquisition, de l'esclavage, des fastes du Vatican, des guerres de religion et des querelles dogmatiques.
Dans la Bible, il y a beaucoup de violence.
Il faut prendre en compte le contexte social, historique, géographique, et se poser la question de comment faire aujourd'hui. Quelle que soit sa religion ou sa philosophie, il est capital d'approfondir les questions essentielles, de creuser l'esprit du texte et ne pas se contenter d'une lecture au premier degré.
D'accord, mais on ne peut pas changer le monde tout seul dans son coin.